ce chêne, il est magnifique. Et c'est vrai que embrasser un arbre, hein, ceux qui nous écoutent, c'est vrai, il faut se planquer parce qu'on vous prendra pour un fou.
Non, c'est pas grave.
Mais vous embrassez un arbre, vous restez comme ça, vous vous détendez.
CO2, mon amour.
D'abord, ça vibre parce qu'il y a des vibrations avec le vent, les trucs comme ça, et vous sentez un truc qui est vivant. Vous êtes traversé par l'énergie de l'arbre. Moi, je trouve que ça coûte pas cher, c'est pas compliqué, il n'y a pas à réfléchir.
Denis Chessoux.
Vous embrassez un arbre. Et vous allez sentir tout d'un coup tout ce que la nature peut vous apporter. Ça vous est traversé, le corps est traversé par cette énergie.
Cette voix, celle de Jean-Louis Etienne, vous allez la retrouver dans le Tarn, donc un reportage effectué il y a quelques jours avec lui et qui va occuper une bonne partie de cet espace radiophonique. CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature et puis aussi parce que nous sommes le changement. Et ça toujours, donc ravi de vous retrouver. Kevin Pelot et Hélène Langlois sont à la technique et j'oublie pas Ben Kaczmarek. Et puis Camille Blanès nous accompagne cette année et c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Une émission 100% garantie, sans burkini, sans Macron, sans chasse aux Pokémon. Venez vous réfugier, venez nager dans ces ondes douces, heureuses de vous retrouver. Alors qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un hiver doux, un printemps avec une bouée canard à la taille, mais vous reprendrez bien un thé à la menthe, un bout d'été brûlant, 2015, année la plus chaude, avant la suivante. Une humanité grouillante qui consomme sans compter et qui le 8 août de cette année ne permet plus à la Terre de se régénérer, notre CO2 avec ou sans amour, oui, de l'absorber. En Floride, la récente tempête Hermine, pauvre bête, a sorti son seau et son balai, juste pour rappeler à son gouverneur qu'il interdisait à son administration d'employer les termes de réchauffement climatique sous le tapis, ces gros mots, là encore du balai. Mais Pékin, on en a parlé, mais l'accord de Paris sur les rails. Donc allez les US, allez l'Europe, on ne joue pas la loose, lâchez-vous. Quelques jours avant le G20, c'est de la good news. Alors les vacances, c'est aussi un temps pour porter ailleurs un regard apaisé. Sous l'œil indifférent des corneilles à l'abri dans les arbres, des compagnies grassouillettes de pigeons ramiers arpentent les chaumes desséchés. Suce aux campagnols le renard mulotte, et oui c'est comme ça, les lapins de l'année jouent comme des peluches. En avant, perchés dans le lierre, la hulotte, les yeux clos, attend son heure avant de patrouiller les lisières, piqueter des lanternes discrètes des derniers vers luisants. Le vent du soir caresse d'un froissement d'ailes les pentes herbeuses et rafraîchit la plaine devenue silencieuse, à peine dérangée par le violon des sauterelles. Eh ouais, il fait bon sortir, se promener, s'asseoir dans l'herbe, sans même déranger les ruminants qui somnolent, pètent et méthanisent au milieu des champs. Oui, ça je sais, c'est moins poétique, mais enfin c'est quand même la vie du ruminant. Faut quand même, voilà. Alors si vous n'avez pas de rupture de métacarpe à force de signer des pétitions sur le web, il vous reste assez de force pour une fraternelle poignée de main à toutes les associations, bonne volonté, coopération, qui n'hésitent pas à plonger dans l'océan des problèmes humains, écologiques, du monde animal. Et dans cette émission, on sera arbre, forêt, terreau, poisson, on s'emplumera comme un oiseau, nous serons grandioses ou vermisseaux. Les vertébrés, les roseaux pensants, les vers de terre aussi auront leur ronde serviette dans cette ronde du temps. Se battre dans la marée monétaire, dans la grande confusion de l'époque, jusqu'au dernier moineau sauvage, trouver des voies de sortie, trouver des solutions. Car vous bougez, ça c'est sûr, ça foisonne, vous avez des idées, coup de projecteur, CO2 mon amour, faut pas hésiter donc à nous contacter. S'indigner, dénoncer, ok, ça c'est fait. Aujourd'hui c'est créer, énoncer, ensemble, collaborer. À la poubelle, le vieux monde compartimenté. Et vous voyez, en ce moment, par capillarité, tout ceci va bien finir dans les cerveaux par remonter. Ouais, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Merci, Hölderlin, poète romantique, magicien, pour ces mots d'or. Cher d'ailleurs Edgar Morin, bientôt dans cette émission. Ouais. Bref, le vivant, les enfants, les jeunes, les femmes, les hommes et les initiatives, d'abord. « Je vous l'ai dit donc au menu de cette émission, ça va être Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne dans son département du Tarn, c'est assez rare, hein, on l'entend régulièrement, mais là c'est donc chez lui. Et vous allez voir, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous faire du bien en cette début de saison. Et puis une nouvelle séquence avec Elisabeth Combre et un ouvrage qui s'appelle « Quand la nature inspire les écrivains ». Ouais, donc régulièrement on ira picorer dans les œuvres des écrivains. Et vous verrez que sans nature, eh ben, leur œuvre n'aurait pas du tout été la même. Et on va débuter donc par Colette. Première chanson choisie par Muriel Pérez. Cette saison, notre programmatrice. Ah, c'est une âne qui veut danser. Oui. Et c'est Papou sur France Inter. Bel après-midi.
She's far too pretty for that dancing hall. It shook the stage. A cannonball. They've almost fell, but she took the fall for him. For him. For him.
Papouze donc sur France Inter. N'hésitez pas à vous abonner donc au podcast de CO2 Mon Amour, ça marche toujours très très bien. Aussi sur le site, hein, vous aurez une vidéo d'ailleurs de ce qui s'est passé un peu avec Jean-Louis Etienne. Bon, une vidéo d'une minute trente. Puis je vous rappelle le Twitter, tout simplement chez Sou, CHUI2SOUX. Et là, et eh ben justement, direction le Tarn avec Jean-Louis Etienne.
La balade de Denis chez Sou.
Joli chemin qui monte au sommet de la colline, entre un peu de châtaignier, entre un peu de chêne. Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour Denis.
On est chez vous dans ce département du Tarn qui est votre département natal. Et cette Devèze où nous sommes, qu'est-ce que c'est d'abord une Devèze ?
Une petite colline. Et cette colline, effectivement, elle est l'illustration de la position géographique du Tarn.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on trouve à la fois à l'est des essences méditerranéennes et à... 100 mètres plus à l'ouest, les influences atlantiques. C'est un lieu de synthèse entre ces deux influences qu'on retrouve aussi dans le tempérament des gens.
C'est quelqu'un qui peut être conciliant, voire conciliateur.
On a eu des grands hommes comme Jaurès, par exemple, qui est né là, effectivement, qui était un grand conciliateur. On le retrouve chez les gens, et on le retrouve dans leur façon d'être. Les jours de Vendôtan, il y a de l'énervement, il y a davantage d'accouchements, il y a aussi des infarctus plus fréquents. On voyait bien ça, l'influence de Vendôtan, ça c'est ce vent de la Méditerranée qui est excitant, qui est chaud. Et puis le vent apaisant de l'ouest, de l'Atlantique, qui nous amène la pluie. Donc c'est un département de synthèse.
Le Tarn, c'est une très jolie tache blonde au sud de la France. On est entre Castres et Lavaur. Donc là, c'est plutôt la partie sud du département, celui de l'Aille Rose, de l'Autrec qui n'est pas loin, du Lauragais, du pays de Cocagne. Donc le pays de Cocagne, c'était la terre du pastel qui fit la richesse de Toulouse. Bon, département assez agricole, mais pas que. Vous avez la vallée de la Goutte là qui n'est pas loin. Et donc au-dessus, dans les collines, là, de Vèze, de Jean-Louis Étienne. Et cet homme a donc besoin de ce lieu. C'est un homme, on sait, on l'a connu en 86. Homme du pôle Nord, puisque donc il est allé le chercher à pied, véritablement. Et puis c'est aussi un homme du pôle Sud, donc Arctique fondante et Antarctique plus résistante, parce que c'est un continent. Donc c'est un homme des deux pôles, ce qu'on pourrait appeler un bipolaire, quoi, en quelque sorte. Bah oui, ils sont pas nombreux, mais enfin c'est comme ça. Respiration intime dans ce Tarn, avec un homme à la fois médecin, explorateur, inventeur, et aussi donc inventeur de sa vie, inventer sa vie, d'ailleurs c'est le titre de son prochain ouvrage qui va sortir aux éditions du Passeur. Inventeur, bricoleur, monteur d'expédition qui doit toujours vivre avec un petit rêve d'avance.
D'ici on voit les Pyrénées. Les Pyrénées, donc... En hiver, ou d'une manière générale, quand on voit les Pyrénées, je dis en hiver parce qu'on les voit bien quand elles sont bien enneigées, c'est signe que le vent de la Méditerranée va arriver dans 48 heures. Et c'est un paysage absolument extraordinaire. Donc j'aime beaucoup ce lieu, c'est un lieu... D'abord, je suis né en bas, dans le village tout en bas. J'ai grandi là, et j'ai été médecin aussi là. J'ai remplacé dans les villages. Et je me souviens que mes premières visites de médecin, c'était... Et alors je t'appelle Jean-Louis ou je te dis docteur. Donc c'était cette relation-là. Je me suis construit ici. J'ai fait mes fondations de voyageurs ici, certainement.
Et puis aussi les fondations du manuel que vous êtes. C'est-à-dire que là, on voit des cabanes que vous avez construites. Puis vous avez toujours aimé ce rapport donc à la main. Ouais. Et même dans le jardin de Vielmur, dans la cabane là, qui était au fond du jardin, il y avait des outils, puis vous bricoliez, quoi.
Oui, j'ai toujours été fasciné par les outils. À l'école primaire, tous les samedis, il y avait le marché. Et au même emplacement, il y avait un étalage d'outillage. Je m'arrêtais là. J'aimais les devantures des quincailleries. J'ai fait beaucoup de bricolage petit, des choses que j'ai commencé, que je n'ai pas fini. Je bricolais beaucoup. J'ai découvert la mécanique avec la vieille mobilette de mon père, que j'ai démontée et remontée 100 fois. Et le travail manuel, en fait, c'est quelque chose qui est apaisant. C'est constructif, le travail manuel. Parce qu'on commence avec des planches et on termine avec une cabane que l'on voit. Mmh. On commence, on démonte un moteur, on remet quelques pièces neuves, on les change et le moteur redémarre. Et en fait, un exercice de ces 10 doigts bien fait, c'est le reflet d'une pensée bien ordonnée. Moi, j'étais à l'école primaire. À l'école primaire, je sais maintenant que j'étais extrêmement dyslexique. Sur les cahiers, c'est... L'orthographe est dramatique, sans parler de la lecture, qui est une catastrophe. Enfin, c'était ça. Et donc, après le CM2, qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, collège technique, CAP, tournoi fraiseur, et puis après j'ai fait autre chose.
Mais oui, mais là c'est intéressant, parce que vous avez quand même fait autre chose aussi après. Vous êtes quand même devenu tout libre, vous avez eu le cœur.
Oui. Mais la possibilité du bac m'a effectivement donné l'envie de faire médecine.
Alors après, vous êtes devenu toujours manuel, parce que lorsque vous étiez chirurgien, vous faisiez un peu de menuiserie, un peu de plomberie.
Oui. Mais non, mais j'étais tellement heureux en chirurgie. Parce qu'en fait, j'ai retrouvé en médecine le geste manuel. Oui. Et en plus, dans une spécialité sur laquelle je m'orientais, qui est l'orthopédie. L'orthopédie, c'est l'os. Donc on est de nouveau dans la matière, dans le dur. Et là, on place des vis, des broches, c'est un vrai travail.
C'est une menuiserie. Quoi.
C'est une menuiserie. Donc il y en a intérêt à être bon bricoleur.
Alors Jean-Louis, on chemine sur cette Devèze, qui devait être pâturée hein, quand même aussi une période. On imagine bien qu'il y avait quand même beaucoup plus de moutons ici. Mais qu'est-ce que vous apporte le Tarn d'un point de vue nature? Est-ce que vous avez besoin, vous, d'être là?
Alors, j'ai eu une révélation après le pôle Nord. 63 jours de disette sans voir un peu d'herbe, quelque chose, une couleur verte, autre chose que de la glace. Je suis revenu directement du Canada, à Paris, et je suis revenu ici. Et là, tout d'un coup, c'était au mois de mai. Et donc, cette nature a explosé. Et c'est la même que j'avais connue dans mon enfance. Elle a explosé. Tout d'un coup, j'avais besoin de me rouler dans l'herbe. J'ai regardé tout ça avec émerveillement. J'ai eu ce coup de foudre-là. Et tout d'un coup, on ne regarde plus les choses de la même façon. Quand vous êtes sur un terrain comme la banquise, qui est un terrain stérile, il n'y a rien. Vous avez beau gratter, creuser. Oui. Et tout d'un coup, vous êtes sur quelque chose qui vit. Là, sous nos pieds, il y a plein d'insectes, de fourmis qui sont partis, d'araignées. Et tout d'un coup, ça, c'est devenu quelque chose où je me suis rendu compte qu'on faisait partie de cette mutuelle, en fait. La nature, c'est une mutuelle où toutes les espèces ont la vie en commun. Et dans la nature, même on donne de sa vie, dans ses habitudes de vie, et on donne de son corps, on est mangé, ou on mange, puis on est mangé, puis on meurt. Et il y a la transformation totale de son corps en matière minérale, qui vont revenir par la photosynthèse dans la matière organique. C'est ça le grand cycle de la nature, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de perdre. Et donc ce Tarn m'a apporté cette révélation. Oh, tout ça, mais tout ça, j'avais l'impression d'être dans une... C'est tout était vivant autour, quoi.
Je sais que vous avez un besoin de prendre aussi de l'énergie des arbres.
Oui.
Et alors peut-être davantage plutôt les platanes, une fois que vous m'aviez dit ça.
Oui.
Alors là, ici, on n'en a pas. Hein. On est plutôt...
Il est beau ce chêne-là.
Ah, qu'il est beau celui-là. Wow.
Alors voyez, on est sur un coteau où la terre est assez sèche quand même.
Ah, oui. Hein.
Mais donc c'est traversé certainement par de l'eau qui circule. Et donc une fois, je voulais faire un puits, j'ai fait venir un sourcier. Et donc, on s'est promené avec lui, et donc avec sa...
Le gars de Coudrier.
Ben, oui, on voyait ça se relever, il me dit, oui. Puis au bout d'un moment, il me dit, c'est pas sorcier, il me dit, regardez, là où ça se dresse, il me dit, c'est là où vous avez des gros arbres. Ouais. C'est qu'il y a de l'eau dessous, il y a à manger, mais il y a aussi de l'eau. Ouais. Donc, si vous voulez trouver des endroits où il y a de l'eau, regardez les gros arbres. Donc, ce chêne, il est magnifique. Et c'est vrai que embrasser un arbre... Ouais. Ceux qui nous écoutent, il faut se planquer parce qu'on vous prendra pour un fou.
Non, c'est pas grave.
Mais vous embrassez un arbre et vous restez comme ça, vous vous détendez. Bon, d'abord, ça vibre parce qu'il y a des vibrations avec le vent, les trucs comme ça. Et vous sentez un truc qui est vivant. Vous êtes traversé par l'énergie de l'arbre. Moi, je trouve que ça coûte pas cher. C'est pas compliqué. Il n'y a pas à réfléchir. Mmh. Vous embrassez un arbre et vous allez sentir tout d'un coup tout ce que la nature peut vous apporter. Ça vous est traversé, le corps est traversé par cette énergie. Régulièrement, quand je suis parti, souvent d'ici, je veux dire au revoir à mes parents, je partais de la gare de Vielmur, et j'allais tout le temps dans le secteur, dans le coin, faire des photos, mais des photos sans appareil, quoi, des images que je prenais. Et donc j'ai des images qui sont toujours les mêmes en tête. J'ai des images comme ça de vent d'automne sur un champ de blé, des choses. Et ça, c'est des jokers, c'est des choses que je me sers quand je suis en difficulté, quand je suis pas bien. Je me resserre ces images de nature. C'est une sorte de réinitialisation, repartir sur quelque chose. Donc la racine est quelque chose qui est constructif.
Alors justement, faites bien une différence entre avoir des racines et donc ne pas être dans l'enracinement.
Oui, et donc, parce qu'on flatte les racines, et c'est vrai, quelqu'un qui trahit ses racines, c'est dramatique, enfin, vous voyez, c'est un... Bon, et donc j'ai trouvé la formule, je dis, écoute, racine, oui, parce que je sais ce que c'est, et ça me nourrit, je suis de là, mais enracinement, non, il fallait voir ailleurs. Et au contraire, ailleurs, tout d'un coup, on a ce socle, c'est un socle, la racine, exactement comme la nation. La nation, dès qu'on est à l'extérieur, bon, en France, on est français, mais on ne s'en rend pas compte. À l'extérieur, déjà, le langage des autres, le décor, fait qu'on est français. Et donc, il y a tout d'un coup cette conscience, effectivement, de la racine qui se fait quand on est ailleurs. C'est une force.
Suite de ce bol d'air avec Jean-Louis Etienne dans le Tarn, avec des considérations plus écologiques encore, ou environnementales, d'ici, allez, 3 minutes 30.
Tu te souviens quand on allait faire du cerf-volant au parc? On se débrouillait bien tous les deux. Il montait haut, très haut. Ça t'épatait. Tu vois, la vie, la mort, Ça nous dépasse tous. C'est comme le cerf-volant.
CO2, mon amour.
On croit qu'on le maîtrise, mais en fait, c'est le vent. Juste le vent.
Denis Chessou.
Loin de moi, tu roucoules. Loin de toi, je m'écroule. J'ai de la pluie qui me colle et des vagues qui me coulent. Avec le temps, rien ne s'en va. Avec le vent, rien ne s'envole. Avec le temps, je suis resté sur ton rocher. Loin de moi, tu décolles. Loin de toi, je déconne. Y a la qui s'affole et des algues qui me foulent. Avec le temps, rien ne s'en va. Avec le vent, rien ne s'envole. Avec le temps, je suis resté sur ton rocher, bien accroché. Sur ton rocher, de moi tu roucoules. Loin de toi je m'écroule. Il y a des filets qui m'isolent et des courants qui se défoulent. Avec le temps rien ne s'en va. Avec le vent rien ne s'envole. Avec le temps je suis resté sur ton rocher, bien accroché. Sur ton rocher,
bien accroché sur ton rocher. C'était Bas-Bas, Roucoule, nouveauté donc France Inter. Alors Jean-Louis Etienne, dans ses nouveautés, alors c'est pas tout de suite, hein, mais il est en train de mettre au point son exploration du courant, comme on dit, circumpolaire antarctique, autrement dit l'océan austral, hein, qui ceinture cette Antarctique à bord d'un gros bouchon qui s'appelle le Polar Pod. C'est en fait une plateforme océanique habitée et puis qui va dériver autour de l'Antarctique dans les cinquièmes hurlants. Faut être assez accroché quand même, hein. Ouais, non, c'est pas le climat d'aujourd'hui. Et là, il y a une véritable attente de la communauté scientifique. Mais c'est dans le Tarn, au milieu de ces arbres, qu'il réfléchit en général à tous ces projets. Ah, là, on arrive sur une des cabanes que vous avez construites. Alors, c'est bien parce qu'il est toit végétalisé,
oui,
bien sûr.
Oui. C'était donc voir sans être vu.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, elle est planquée.
Elle serait planquée. Bois, beaucoup de surface vitrée.
Ouais.
Et le toit végétalisé.
Bois local, hein.
Oui, qui vient de la montagne noire.
Alors on voit au loin quand même ce paysage. Et cette montagne noire, on dit montagne noire peut-être parce que la couleur était sombre. Je sais qu'il y a différentes origines, ouais, qui existent. Mais c'est aussi votre montagne tutélaire, hein. Vous avez fait l'alpinisme aussi,
ouais,
par,
oui,
là-bas,
oui,
du côté du Carou, je crois.
Il y a le Carou pour l'escalade et, oui, la montagne noire, donc c'est très rond. Il y a le pic de Nord qui n'a rien d'un pic, qui est très rond. Bon, c'est, ouais, une espèce de ballon, hein, de ballon du Tarn, comme les ballons d'Alsace, et qui culmine à 1200 mètres. Et là, j'ai joué la Napurna plusieurs fois.
Ah, ouais, je comprends.
Parce qu'en hiver, on avait une 4 chevaux, je me souviens, et mon père, de temps en temps, nous amenait au pic de Nord, avec mes deux sœurs, ma mère, et j'ai des souvenirs de marcher, il y avait du givre sur les arbres, et on marchait avec le vent sur le visage, je me jouais la Napurna.
C'était vos premières expéditions.
C'était mes premières expéditions. J'ai cultivé, enfin, sans le savoir, transcender la sensation du vent sur le visage. Je le fais à Paris, je m'y amuse. Je vais me balader, c'est pas loin de chez moi, il y a l'île aux Cygnes. Et il y a souvent du vent, et je me joue une expé, quoi.
Oui.
Je me joue ailleurs, et ça me lave. Ça me lave, ça me fait du bien.
Jean-Louis Etienne, aujourd'hui, quand vous prenez, vous, le pouls de la planète, et Dieu sait si vous l'avez pris, parce que lorsque vous êtes retrouvé, par exemple, en Antarctique, avec votre filet, bah, vous récoltiez malheureusement des pesticides qui n'étaient pas une production locale, mais qui tournaient autour de la Terre. Mais aujourd'hui, où en est-on? Les gens ferment un peu les écoutilles, on leur parle d'environnement, oui, ils ont envie de faire, mais ils veulent pas de catastrophisme non plus, ils pensent à l'emploi d'abord, ils pensent à leurs gamins. Et pourtant, on n'a qu'une seule Terre, on n'échappe pas des lois physiques.
Aujourd'hui, l'information circule partout dans le monde, on sait très bien que le réchauffement climatique est une réalité. De quoi parlent les gens quand ils se rendent compte, quand ils vont acheter la baguette de pain le matin?
La météo.
Et attends, salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? La santé et la météo, les deux mamelles de la conversation. Donc quand on parle de réchauffement climatique, le gars il dit, attends, ben, si c'est chaud, il dit, peut-être qu'ils ont raison. S'il fait très froid, il dit, ils nous racontent des carabistouilles.
Ouais,
donc c'est pas une valeur populaire. Le climat, c'est une...
Non, c'est
la
vrai.
Machine climatique, c'est planétaire. Et ce réchauffement, c'est une mesure scientifique. Un degré, même pas un degré en un siècle, ce n'est pas perceptible. Il faut faire confiance aux scientifiques. Et les choses sont simples. On a installé un double vitrage au gaz carbonique. Et donc, automatiquement, ça se réchauffe, ça retient davantage la chaleur parce qu'il y a ce double vitrage. On a renforcé la couche de CO2 naturelle par une autre couche qui est la nôtre. On est sous une serre aujourd'hui qui retient la chaleur et ça se réchauffe petit à petit. Ça, c'est une réalité. C'est planétaire aujourd'hui, on n'a qu'à voir le succès de la conférence de Paris, les 195 pics qui étaient là, oui. Et ils étaient tous sur la photo, ça veut dire qu'ils signaient par leur présence la reconnaissance que l'homme est devenu un acteur du changement climatique. J'ai habité en Californie, je vois comme le phénomène est enclenché, les économies d'énergie, la recherche des énergies du futur. Parce que, en plus, les Américains, ils ont un sens de l'économie, c'est-à-dire que tout de suite, où est-ce qu'on peut faire du business avec? Mais ça ne marchera que s'il y a un support économique, quoi. Hein. C'est pas dans la privation, c'est dans la construction d'autres choses qui seront des nouveaux process beaucoup plus vertueux.
Et aussi dans la manière de réinterroger le progrès, c'est-à-dire de réinterroger nos propres consommations. Qu'est-ce qui doit croître, qu'est-ce qui doit décroître?
Le changement à l'échelle planétaire, ça va être extrêmement lent. Donc, il y a un côté désespérant. Hein, on dit, qu'est-ce que je peux faire?
Et en même temps, pardonnez-moi, il y a quand même une accélération aujourd'hui des phénomènes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des seuils qui sont en train d'être franchis. Quoi. Il y a des écosystèmes qui ne réagissent plus aussi.
Oui. Et donc, je dis tout le temps à ceux qui nous écoutent, soyez efficaces sur votre zone d'influence. Mmh. On a une zone d'influence. Essayons de l'élargir, elle est personnelle déjà. Attendez, ceux qui nous écoutent, là, est-ce que vous êtes capable de changer vos habitudes? Hein,
mmh.
C'est vachement compliqué. Et en fait, c'est tellement facile, quoi. Hein. Donc, changer à l'échelle d'une nation, de la famille déjà, d'une nation et du monde. Donc, les choses vont prendre du temps.
Il faut aussi des incitations quand même politiques.
Absolument.
Il faut quand même être incité quand même par rapport.
Il faut être incité. Et oui. Et donc là,
la machine globale n'incite quand même relativement peu, quoi. Donc.
Mais non, parce que la machine globale, en fait, elle est menée par une poignée.
Ah oui.
Et qui sont soutenues par des lobbies très puissants. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec des gens qui font du fromage de chèvre et qui ont changé leurs installations il y a une quinzaine d'années pour des raisons de normes sécuritaires. Donc ils ont tout mis en inox, machin et tout. Il y a des nouvelles normes qui passent.
Ouais, d'accord.
Et il me dit, je ne peux plus.
Je peux plus suivre.
Je peux plus suivre. Alors que c'est tout à fait correct ce qu'il a, etc. Ouais. Donc l'interrogation, c'était quelle est la puissance d'un lobby? Qu'est-ce qu'on va inventer comme règle pour l'inciter à changer son congélateur, son truc comme ça, alors que celui-là est très bien. Et donc, on se rend compte que la machine économique, elle s'auto-alimente dans la recherche du profit permanent au profit de quelques-uns. La finance est aveugle. Elle est faite par nos meilleurs mathématiciens qui trouvent des formules
oui.
pour baiser l'autre dans la demi-seconde, même dans la millième de seconde.
Oui.
la finance, elle est à vide, c'est un vrai problème. Dans un pays comme le nôtre, au niveau individuel, il y a des choses qui se passent dans le bon sens. Au niveau des communes, les maires aujourd'hui...
Mais oui, pas de collectivités.
Les collectivités, ils sont obligés, parce que la population le demande, de prendre des mesures dans le bon sens. Même les industriels, parce qu'ils se rendent compte qu'en investissant sur des nouveaux process énergétiques, finalement, ils amortissent très très vite. Donc il y a des choses qui se passent. L'image que j'ai trouvée pour réfléchir à est-ce qu'on est écologiquement vertueux ou pas, ou dans le bon sens, essayons de retrouver le fonctionnement de l'écosystème Terre avant que nous arrivions, je dis nous les hommes. C'est que, comme tous les équilibres, ça repose sur trois choses. Le trépied, c'est solide. Il y a la production primaire qui est la nature, la végétation. Grâce au soleil, ça c'est le miracle des plantes quand même. Miracle des plantes,
la photosynthèse. Et tout se recycle.
Et donc en rigolant, je dis tout le temps, à la place des poils, si on avait de l'herbe,
ça
produit du glucose, on serait alimenté un peu.
Hein,
on bénéficierait de cette... Bon, on n'est pas dans la photosynthèse. Dans la photosynthèse, c'est ce qui produit, c'est la base de tout. Le verre, l'herbe, la plante, c'est le point de départ de l'alimentation à la fois sur terre et en mer. Un, production primaire. Deuxièmement, les consommateurs. Dans la nature, il y avait proie-prédateurs, ça s'équilibrait, on se connaissait. C'était relativement stable, même si l'évolution est très lente. Et troisième pilier du phénomène, les recycleurs. Production primaire, consommateur, recycleur. Et ça, ça a marché sur un trépied. Arrive l'homme qui a une puissance colossale. Il va commencer à attaquer la production primaire en changeant la déforestation, etc. Toutes les choses qui détruisent la nature. Ensuite, deuxième pied, consommateur. Là, on n'est pas bon. Parce qu'on est des consommateurs sauvages.
Oui, franchement, on peut mieux faire.
On n'est pas. Donc, essayez de s'éduquer en tant que consommateur. Ne pas acheter des cerises ou des fraises en hiver, je donne un exemple au hasard. Mais enfin, c'est ça, être un bon consommateur, regarder un peu sur l'étiquette, qu'est-ce qu'il y a. Et le troisième trépied, là on n'est pas bon non plus, c'est les recycleurs. On a tout foutu dehors, on a jeté dans l'océan pensant qu'il était immense. Tout ce qu'on n'avait pas besoin aujourd'hui, le sang est saturé de notre irrespect. Et l'atmosphère, pareil, on a l'impression que c'était immense. Mais non, ça sature de notre CO2. Recyclons, parce qu'en fait, tout ce qu'on a mis dans le circuit, en fait, peut revenir. Et là, on est dans le circuit vertueux. Moi, j'appelle ça l'écologie circulaire.
Ouais.
Parce qu'en fait, production primaire, consommateur, recycleur, c'est ça qu'il faut. Il faut rester au plus près et ne pas satelliser des choses sur lesquelles on ne maîtrise plus. On a inventé des produits qu'on ne sait plus recycler. Et donc, ils deviennent très, très vite c'est une engeance dans la nature, quoi.
Les cigales s'en donnent à cœur et papates de joie. Alors si on se garde une belle image du Tarn, là ça y est, on est sur votre promontoire avec la montagne noire en face.
Il y a toutes les définitions, c'est un département agricole, c'est un bâtiment, c'est boisé. J'ai la chance ici d'être sur une terre où les agriculteurs ont conservé, les champs sont séparés par des haies, par des bois, et ce qui maintient quand même une biodiversité. Alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus... Ils ont rasé, et je me souviens très bien, je venais avec mon grand-père tous les ans à la Toussaint. On venait au cimetière familial qui est perché à la colline, là. Mon grand-père, sur le mur du cimetière qui était bas, on regardait de l'autre côté, là-bas, qui est vers Casse, qui est beaucoup plus agricole. Ça s'appelait le remembrement. C'est-à-dire, ils ont foutu en l'air toutes les haies. On faisait des grands champs pour que ce soit plus efficace. Et je me souviens qu'il était effondré par ça et c'était un homme de la campagne, et il savait très bien qu'en détruisant ces espacements entre les champs, les haies, on donnait aucune chance à la nature de survivre. On a enlevé là où il faisait les nids, là où il pouvait traverser à découvert un champ, sachant que pas très loin, il y avait un endroit où on pouvait se planquer, et ça a été dramatique. Et donc j'ai la chance d'avoir en face de moi des espacements qui sont conservés bien sûr pour l'agriculture, et puis ces haies ou ces bois, et puis... C'est tellement plus apaisant de voir ces espaces-là que ces immenses champs. Quoi.
Et alors au fond, on a la vallée de la Goutte, voilà, donc qui vient arroser entre Castres et...
Symbole du futur,
vos éoliennes.
Ces éoliennes qui tournent.
Ouais.
J'appréhendais au départ,
ouais.
Parce qu'elles sont à 800 mètres d'ici, on entendait de tout. Et en fait, je me suis dit, il faut être cohérent. Soit il faut lutter contre le réchauffement climatique, trouver d'autres énergies. Et si un mec comme moi, je me disais à moi-même, commence à rechigner,
ça va pas.
Soyons cohérents. à part la géothermie, c'est l'énergie qu'on a dans le sous-sol, pratiquement tout vient du soleil. Le vent vient du soleil, les différences de température entre deux trucs. Le soleil, bien sûr, solaire thermique, solaire photovoltaïque. La biomasse, de la photosynthèse, tout est pratiquement soleil. Même les usines marémotrices, si on regarde, ou les hydroliennes, c'est-à-dire c'est celles qui sont sous l'eau, qui tournent sous l'eau, c'est des courants de marée, c'est la position du soleil par rapport à la Lune. C'est différent, mais le soleil est pour quelque chose, quoi. Hein. Donc si on regarde là, cette production, elle est énorme en termes d'énergie. Elle dépasse largement tout ce qu'on peut imaginer. Le problème, c'est bien sûr, il y a l'intermittence. En même temps, c'est la faiblesse de la densité. On court après le facteur temps. Qu'est-ce qui fait la différence entre la densité d'une énergie renouvelable actuelle, celle qui se produit dans l'instant, et celle qui nous est offerte par les fossiles? C'est 250 millions d'années de transformation de la matière organique, végétale, par la pression sous la terre et la température. Ça a donné du pétrole, du charbon ou du gaz. Ouais. Donc là, on court après le facteur temps, c'est-à-dire comment récupérer en direct cette capacité solaire de toutes ses formes, vent, je sais pas, les barrages, même les barrages hydroélectriques, c'est l'évaporation due au soleil, la pluie qui remplit le barrage, etc. Donc comment récupérer ça? Donc ça veut dire qu'il y a une bien plus faible densité, il faudrait multiplier les récepteurs. Donc multiplier les éoliennes partout, des photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, etc. Et il faudrait aussi être capable de stocker cette électricité qui est produite par ces énergies-là. On pourra, dans un futur assez proche, que les énergies renouvelables pourront satisfaire nos besoins domestiques, même pour le transport avec sa voiture électrique, sur des distances que l'on peut imaginer assez... Mais à une condition, c'est que la population soit super éduquée à la préciosité de l'énergie.
C'est ça, devenir sobre. On parle de...
oui. Mais oui, parce que c'est tellement facile l'accès à l'énergie. Oui. On ne sait pas, on n'en veut à personne, mais vous branchez une plaque électrique, c'est tout de suite 2500 watts.
C'est quand même un formidable pédagogue, hein, Jean-Louis Etienne. Vous retrouverez a priori sur le site de CO2 Mon Amour donc une petite vidéo que nous avons donc tournée aussi. Ça vous donnera un exemple de ces lieux. Et puis moi, je vous propose, avant de le retrouver, un petit coup de violon légendaire que l'on doit à des scarabées qui ne sont pas égyptiens, mais british.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Ah bah oui, un petit coup de Beatles, ne me dites pas que ça ne veut pas faire de mal, c'était très très bien. Alors ce qui est intéressant, et Jean-Louis Etienne, donc c'est absolument un homme des énergies renouvelables, mais, et là évidemment, certains qui vont avoir le poil un peu hérissé, c'est pas grave, mais il ne s'interdit rien, sauf les émissions de gaz à effet de serre.
Il y a quelque chose qui me turlupine, c'est un peu indécent de le dire à votre émission, Denis, mais le nucléaire. C'est une vraie question. Et je ne parle pas des centrales que l'on a aujourd'hui, même de l'EPR. Ce sont des conceptions qui ont 50-60 ans.
C'est ça. Ce que vous dites, c'est que sur le domaine du nucléaire, on peut aussi évoluer encore.
Ce qui est magique, c'est E égale MC2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse de la matière. C, c'est la vitesse de la lumière. Quand dans une fusion qu'il y a dans le Soleil, la fusion des noyaux d'hydrogène, au sens large, fusionne dans le Soleil à cette très haute température, la quantité d'énergie que l'on reçoit ici à travers le rayonnement est proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. C'est monstrueux. Ouais. On voit aujourd'hui qu'il y a de la recherche dans tous les pays du monde, tous les pays avancés, recherche sur comment exploiter cette E égale MC2 et que ça devienne renouvelable et propre, c'est-à-dire pas de production de déchets et que ce ne soit pas des monstres dangereux. Et il y a des solutions. Il y a ITER, par exemple. Ce n'est pas idiot de se dire, ma foi, mais si on recrée un soleil sur Terre, on aurait accès à cette énergie. C'est compliqué. On est entre la science fondamentale et la très haute technologie. On est dans un laboratoire aujourd'hui avec ITER, mais c'est intéressant. On part quand même de la production d'énergie mondiale.
Alors évidemment, on va vous dire que ça va coûter au bas mot 20 milliards aujourd'hui.
Oui, mais...
Et il n'y aura pas un kilowattheure qui va sortir avant 50 ans, etc.
Oui.
Mais c'est un pari. Voilà, c'est un pari scientifique.
Mais 20 milliards, c'est moins cher que les Jeux Olympiques de Sochi, par exemple, en Russie.
Oui, j'ai pas
30 milliards.
30 milliards.
Oui.
Ah,
ben
d'accord. tout ça pour le dopage, en plus.
Oui. c'est one shot. C'est un seul coup. Hein. Et donc, on parlera d'alimenter l'énergie planétaire, mondiale. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que cet investissement, il vaut le coup quand même ? Parce que tout ce qu'il y a autour de cette approche technologique... Bon, il y a le CERN dont on ne parle jamais, cet accélérateur de particules à Genève qui coûte très très cher. C'est d'une très haute technologie. On est dans la recherche de la matière. Ouais. Pour moi, ça relève pareil. J'imagine qu'un jour...
Oui, mais ça y est, le boson de Higgs. Hein ?
Oui, le boson de Higgs, ça progresse.
Ah, oui.
Et alors maintenant qu'ils ont trouvé le boson de Higgs, il y a d'autres choses. On explore la matière.
Ouais.
Et en fait, dans cette science fondamentale, la très haute technologie mise à ce service-là fait des progrès un peu partout dans notre vie courante, quoi. C'est de là qu'est né le Internet, d'ailleurs. Le web a été né au CERN, parce qu'au CERN, ils avaient besoin d'échanger avec le monde entier les informations.
Ouais.
E égale MC2, c'est ça qui me fascine.
Ouais.
Et là, on parle de la création de l'univers, quoi. Ouais. C'est retrouver cette énergie créatrice, quoi.
Jean-Louis, comment amener les gens à avoir de l'appétit pour, à la fois... le naturel, les énergies renouvelables, une meilleure santé, une manière de vivre plus apaisée en définitive.
Oui, c'est important le mot apaisé. Mais l'apaisement, c'est le travail en apaisement, c'est un travail déjà personnel. C'est évident que si on a sa chaîne d'information ouverte toute la journée à la maison...
On se flingue.
Ça nous met dans un état d'impuissance et d'anxiété formidable.
Et
à un moment donné, il faut savoir se mettre en jachère des ondes.
Ouais.
Revenons à Jaurès. Le discours qu'il a fait
à la jeunesse,
sur la jeunesse en 1903 est extraordinaire. Pour sortir une phrase de ce qu'il a dit, c'est « aller à l'idéal tout en comprenant le réel ». En fait, tout est dit. C'est-à-dire qu'on doit être tous porteurs d'un idéal qu'il faut marier dans la transition avec le réel qui nous insupporte pour plein de raisons. Et donc ne pas perdre de vue cet idéal, en fait, d'un monde meilleur. Et chacun en est l'acteur, déjà. Et allier à l'idéal tout en comprenant le réel.
Je trouve que c'est pas mal, Jean-Louis, pour se quitter tranquillement, vous voyez, au seuil de cette première émission. Vous nous rappelez le titre de l'ouvrage donc, qui va paraître aux éditions du Passeur, ça va être fin septembre.
Fin septembre, et ça s'appelle « Inventer sa vie ». Inventer sa vie parce qu'en fait, l'expérience aujourd'hui de mon âge, de ce parcours que j'ai eu sinueux, inventé de toutes pièces un peu, était fidèle à une envie de nature. Moi, j'aimais vivre dehors, je suis né à la nature. Dans la nature, j'aimais ça. J'en ai fait un peu mon métier aujourd'hui, à la fois de la fréquenter et la défendre. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a des potentiels insoupçonnés de soi. Et en fait, la liberté que l'on voudrait, elle ne se gagne pas sur les autres, elle se gagne sur soi. C'est ce potentiel-là qui m'intéresse, que chacun... mettre à l'œuvre, mais ne pas toujours regarder la faute ailleurs, commencer à se dire qu'est-ce qui se passe à moi, qu'est-ce que je peux faire honnêtement, avoir le courage de suivre ces voies de création qui sont souvent qui vous amènent à flatter votre liberté, à la cultiver votre liberté, mais c'est un chantier énorme, c'est un travail sur soi qui est énorme, mais les récompenses sont là quand on a réalisé des choses qu'on avait envie de faire au plus profond de soi, on s'est réalisé, donc Inventer sa vie, c'est ce que j'ai trouvé comme titre de mon prochain ouvrage.
Merci Jean-Louis Etienne, et puis à bientôt.
À bientôt Denis.
D'autant plus que Jean-Louis interviendra à peu près, bon, on n'a pas une régularité folle, mais je dirais une fois par mois dans cette émission, avec une carte blanche. Donc un homme à la fois d'idéal, de rêve, mais aussi tout à fait pragmatique. C'était bien, je crois, de l'avoir avec cette belle pastille, cette belle envolée donc tarnaise qui l'a parfaitement constituée. Dans quelques instants, une nouvelle séquence.
Moi, j'y suis au paradis terrestre. Qu'est-ce que tu veux que je désire de plus ? Il n'y a pas Ève ni Adam, heureusement qu'il vient pour me voir. Mais regarde, je me lève le matin. Si c'est l'été, j'ai ce soleil là sur cette forêt, c'est splendide. Et je ne respire que ça, je vis de l'air de la forêt, moi.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Ben, la dame que l'on vient d'entendre, qui est une tante Marie, ben, elle était presque de la même époque que la dame que l'on va entendre dans quelques instants. J'ai un ouvrage là qui s'appelle « Quand la nature inspire les écrivains » aux éditions bien nommées « Plume de carotte ».« Plume de carotte ».« Quand la nature inspire les écrivains », donc c'est un titre qui parle de lui-même. Nature, culture, femme et homme de plume. Et nous débutons par une autre voie, tranquillement. Et là, eh ben, on va découvrir cette femme.
C'est un fort, beau, confortable et énorme crapaud. Je lui ai gratté la tête. Les crapauds aiment qu'on leur gratte la tête. C'est une chose, c'est un détail qui a son importance, mais que l'être humain ignore vraiment trop souvent.
Eh bien, je suis content que vous nous révéliez ce détail.
Ben voilà, et très content pour le détail. Colette, bien sûr, mondaine, scandaleuse, libre, en avance sur son époque, amoureuse de la nature, et tout ceci se mariait pas mal du tout dans sa vie. Bonjour Elisabeth Combre.
Bonjour Denis. Elle était capable d'être, oui, multiple. Il y avait à la fois voilà, les scandales parisiens, le mime, le théâtre, et puis de l'autre, la Colette sauvage, secrète et paysanne, amoureuse de la nature, nostalgique de son enfance, hein, sur lequel a régné sa mère, qui était à la fois un astre, une boussole, et que toute son œuvre a célébré.
C'est elle d'ailleurs qui l'initie au secret de la nature et du temps. Hein. C'est vraiment cette Sido qui est là, quoi.
Et il faut dire qu'elle lui a accordé une enfance qui fait rêver aujourd'hui. Hein. Colette jouit d'une liberté dans la nature qu'aujourd'hui on qualifierait de la part des parents d'inconscience ou quelque chose comme ça. On laisse plus aujourd'hui partir nos enfants seuls comme ça. Et quel dommage. Enfin, en même temps, on n'a pas tous la nature à portée de nos portes ou de nos jardins. Donc elle a parfois le privilège de partir à l'aube. Elle fait corps avec la nature. Avec la brume, elle se fond dans les éléments et elle écoute ses sens. Hein. Elle est éduquée à sentir le monde qui l'entoure par cette mère, donc par Sido, cette mère amoureuse des fleurs. Dans la nature, Colette, elle touche, elle palpe, elle goûte, elle respire et elle fera pareil dans ses livres. Toute son œuvre redessine ce paradis perdu.
Mais sa vie, est un rendez-vous avec la sensualité, hein, à tout niveau, quoi, et particulièrement avec la nature.
Alors, sensualité, c'est ça, c'est les sens, c'est la chair, c'est l'épanouissement du corps. Et chaque fois qu'elle parle de quelque chose, elle en passe par le vocabulaire de la nature. Son écriture est le reflet de ses sensations exacerbées de l'enfance. Elle est imagée, gourmande. Colette parle beaucoup des femmes dans son œuvre. Elle en parle à travers les fleurs. Et Colette, elle parle aussi de ses amantes, des amours au jardin. Elle décrit les femmes comme des végétaux, des iris qui soupirent, des roses qui se dévêtissent. D'une nuit avec son amante Missy, elle décrit le goût des sucs de fleurs sur ses lèvres, elle file la métaphore. Ça, c'est un des extraits qu'on peut trouver dans les vrilles de la vigne.
Elle a écrit. Et d'ailleurs, elle veut devenir aussi presque animale elle-même, hein, dans certains cas.
Ah oui. Quand elle se fond avec la nature, c'est pas à moitié. Elle a écrit ses envies de quitter sa condition humaine pour ne plus parler, pour devenir chatte ou chienne et partir galoper dans la neige. Hein. Elle raconte comme elle aime galoper avec son chien dans la neige. Et elle est allée jusqu'à dire qu'elle accoucherait plus facilement d'une boule de poils que d'un bébé humain quand elle était enceinte. Alors, Colette fut la mère qu'elle fut, hein, il n'y a pas de mère parfaite, mais elle a fait un portrait fantastique de sa fille en enfant de la terre, où elle semble emprunter un peu à Archimboldo, vous savez, ces peintures là où on voit tous ces fruits, ces fleurs, c'est une enfant des forêts et des vergers, elle est à la fois pomme, maïs, châtaigne. Colette, c'est ça, c'est une écriture qui nous renvoie dans la nature, quel que soit son sujet.
Et si on retire la nature de Colette, eh ben il n'y a plus de Colette, il n'y a plus d'auteur qui nous a absolument régalé. Moi, je vous renvoie donc à ces cet ouvrage, donc signé Elisabeth Combe, Quand la nature inspire les écrivains, aux éditions Plumes de Carotte. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, Elisabeth.
Au revoir, Denis.
On voyagera aussi avec des Américains, des Chiliens, enfin, etc. Donc, tout au long, on va dire, de cette saison, Quand la nature inspire les écrivains. Et le répondeur, 01 56 40 40 35. Je recommence parce que faut repartir tranquillement. 01 56 40 40 35. Il vous inspire aussi.
Bonjour, c'est Aude Mon Amour. Je vous appelle d'Embrun dans les Hautes-Alpes. Vous savez, c'est tout en bas de la carte de France, là où il y a souvent du soleil, du ciel bleu et des montagnes, bien sûr. Et pour vous dire que le samedi 10 et le dimanche 11 septembre, nous allons réaliser la belle foire bio-Génépi, qui a lieu à Embrun. Et nous avons un slogan qui s'appelle « Cultivons l'énergie positive ». Parce que c'est une foire qui aime soutenir et mettre en avant toutes les actions concrètes qui peuvent favoriser une agriculture de qualité, l'alimentation de qualité, la santé et préserver le climat. Pour cette année, il y a deux grandes choses à retenir. On va avoir un pôle énergie positive et croissance verte. Ça va rassembler sur la foire toute une partie où il y aura des animations, des spectacles, des contes et des conférences. Et la deuxième chose qui est aussi très très importante, c'est qu'on a la chance, la joie, l'honneur d'accueillir Madame Vandana Shiva, qui sera présente pendant 2 jours sur la foire. Elle nous donnera une conférence le dimanche soir à 17h30 intitulée « Soigner la terre pour cultiver la paix ».
Voilà, donc c'est à Embrun. Embrun, c'est Savines-le-Lac qui est juste à côté. Hein, vous avez le lac de Savines. Vous avez la très jolie vallée du Barpaillon, donc qui n'est pas loin. Et vous avez Christian Couloumi, qui est un homme à la tête de Envergure Alping, qui est une association qui est en train de compter les vautours actuellement. On y reviendra, mais une autre fois. Donc c'est bien la semaine prochaine. Et aussi la semaine prochaine, tenez, un autre message.
Bonjour à tous. Après avoir soufflé ses 30 bougies l'année dernière, la plus vieille foire régionale biologique de Bretagne, la foire Biozone, aura lieu à Mure de Bretagne les 10 et 11 septembre prochains. Le thème choisi pour cette année est le jardin. On abordera différents aspects techniques du jardin à travers les différents ateliers, conférences, débats, films, animations. Notamment, on pourra parler du compost, de la permaculture, du greffage, des conserves, de la biodynamie, du lombricompostage, etc., etc. On n'oubliera pas également d'aborder l'aspect social du jardin, notamment en parlant de l'insertion socio-professionnelle par le maraîchage bio. On parlera aussi des jardins partagés, des jardins pédagogiques dans les écoles. N'hésitez pas à aller consulter l'ensemble du programme sur le site internet foire-biozone.org où vous aurez toutes les informations pratiques. À bientôt.
Puis vous n'hésitez pas non plus sur ce répondeur aussi pour vos initiatives. Allez-y, vos coups de cœur, tout ce que vous souhaitez. 01 56 40 40 35. Le Twitter, je vous le rappelle, donc c'est chez Sous, tout simplement. Et puis, la vidéo, si vous allez sur le site, je vous l'ai déjà dit deux fois, mais la vidéo avec Jean-Louis Etienne, c'est son lieu, c'est son nid, c'est sa cabane au fond du jardin. Et donc, dans ce département du Tarn, voilà, le podcast, vous en avez l'habitude. Grand merci à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour et qui a elle-même son propre site Initia Verte. Très intéressant. La semaine prochaine, nous irons aussi dans un territoire en transition. Nous irons dans le Trièves. Frédéric Denry nous rejoindra pour l'actualité. Il y aura aussi une initiative, je ne sais pas encore laquelle, mais qui va donc arriver. Merci à Kevin Pellot, Hélène Langlois, à Camille Blanès, notre assistance, à Xavier Pestugia qui a formidablement colorié donc ce reportage de Jean-Louis Etienne et réaliser cette émission. 7h55 demain, Alain Bougrain-Dubourg chez Patricia Martin. Nathalie Fontrelle, 7h20, c'est en semaine. Et puis, le podcast, vous le savez. Et là, tu lis mon petit loup quand même, qui reprend à 19h54 après les petits bateaux. Ce sera demain.